Merci. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence dont le titre semble un petit peu lassé, des faits, encore des faits, toujours des faits. Alors qu'en fait, pas du tout, hein. on va être hyper tonique, enfin je vais essayer de tonifier tout le monde qui est en fin de festival et on commence à être un petit peu... Ah, je vois quelqu'un qui baille déjà dans la salle. Oui, c'est... J'ai même pas dit deux phrases, quoi.
C'est parce qu'on faiblit.
Oh voilà. Alors, bon,
bli, allez, bli, on est parti, bli, bli, bli.
Un peu de phéromone, et ça.
Bon, alors, commençons par situer pour chacun d'entre vous ce qui fait que vous vous intéressez aux faits et quelle est votre dernière production sur la question. Je vais commencer par Chantal, parce que c'est peut-être vous et moi la première fois qu'on se voit.
Oui, tout à fait.
Donc je serais ravie que vous me racontiez un petit peu que représente dans vos univers les faits.
Ça marche, oui. Voilà. Oui, ben moi je travaille sur les faits depuis, sur les contes de faits depuis très longtemps. Je ne vais pas énumérer ce que j'ai publié parce que vous l'avez sur la bibliographie. Hein. Du site des Imaginales, mais j'ai publié il y a quelques années notamment le petit ouvrage qui est là qui s'appelle Fugue de la Fontaine aux Fées, qui était sous le titre d'ailleurs simplement La Fontaine aux Fées au début, et puis voilà, la réédition a changé un petit peu. Et parallèlement, comme je dirige des anthologies, j'en ai pas 50, j'ai dirigé des anthologies chez Rivière Blanche, je me suis dit, pour changer de dimension Moscou que j'avais dirigé l'an dernier, pourquoi pas un Dimension Fée qui ferait le parallèle avec ce que j'ai écrit. Et en même temps, j'avais lu le livre de Nathalie Dow, En revenir aux fées. Donc voilà, je trouvais que c'était bien de montrer que le sujet était toujours actuel.
Pierre, vous n'en êtes jamais sorti des fées.
Non.
À croire que ça vous plaît.
Il est né d'une fée.
Oui, il y a de ça. Disons que moi, je suis né dans les Ardennes. Hein. Je suis né dans les Ardennes, et les Ardennes, c'est vrai que c'est une immense forêt et qui est pleine de légendes. Donc, on ne me racontait pas spécialement ces légendes lorsque j'étais petit, parce que mes parents n'y croyaient pas, ce n'était pas du tout le genre. Hein. Quoique ma mère, se prétendait sorcière, et je crois qu'elle l'était quand même un peu. Mais... d'ailleurs pas toujours une bonne sorcière, une sorcière. Par contre, elle comprenait vaguement que j'avais envie d'un petit peu de respirer ailleurs, quoi. Et autant mon père était vraiment... les livres, c'était mal, c'était bourrage de crâne, c'était ça fait mal aux yeux, t'es encore en train de lire, etc. Ma mère me glissait des livres en cachette, mais même si je ne savais pas les lire, parce que j'étais petit, très petit encore. Donc je regardais les images, et les images étaient pleines de fées, de chevaliers, parce que c'était les livres d'histoire de ma grande sœur. Et quand je voyais Bayard, j'ai appris que c'était lui après, Bayard sur le pont du Garigliano, pour moi c'était évidemment Arthur et la marquise de Sévigné, c'était certainement, je ne sais pas, Morgane ou quelque chose comme ça. Donc je me suis fabriqué un monde, et aussi à travers cette forêt. Et mes parents ont déménagé, donc j'ai dû déménager aussi, évidemment, avec la cage rossignol. Et je n'ai plus eu de forêt. J'étais orphelin de ma forêt. Par contre, il y avait un immense jardin, un très grand jardin. Je suis sûr que maintenant, je le reverrai, je le trouverai petit. Mais à l'époque, pour moi, évidemment, il était immense. Et c'est devenu mon coin aux fées. C'est devenu un petit peu mon île de Peter Pan, quoi. Ce jardin était plein de fées, quoi. Et c'est parti de là. C'était vraiment plein de fées. Et si j'ai encore deux minutes, souvent pourquoi tu crois aux fées, pourquoi tu crois aux fées. Mais le fait, la fée, c'est le destin. Et se confier aux fées, c'est aller vers son destin. Et toujours il répond, la fée répond. Et justement, j'avais entendu dire qu'il y avait une dame blanche, une fée blanche, qui apparaissait dans un petit vallon. Et j'ai dit à mes parents, je voudrais y aller. Évidemment, je n'aurais pas dit que c'était pour voir la dame blanche. Et j'ai pas vu la dame blanche, mais j'ai eu une angine blanche. Donc j'étais au nid un peu fiévreux. Et ma mère donc n'a pas trouvé le bon morane à me donner cette fois-là. Donc elle a pris le premier marabout venu et c'était Claude Seignol, c'était Marie Lalouf, c'était la Malvenue. Et c'est là où je me suis dit, je voudrais devenir Claude Seignol. Et là, si j'ai encore une minute, la Dame Blanche, donc du coup, répondait à travers Claude Seignol. Et plus tard, je suis allé à l'armée, parce qu'avant, on était chef de service militaire. Et du grenier où on m'avait caché, pratiquement, par la lucarne, je voyais, c'était à Épernay, dans le Champagne, et la caserne s'appelait le quartier Marguerite, ce qui n'est pas très sérieux. Et je voyais comme une ruine au fond, et je voulais aller voir cette ruine, je suis allé voir cette ruine, et c'était pas du tout une ruine, c'était une église, mais avec le soleil couchant, justement, ça me racontait une histoire. Et quand je suis descendu de là, il y a un paysan qui m'a pris dans sa voiture pour me ramener à la caserne, et qui m'a dit, tu arrives là du domaine de la Dame Blanche. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est une fée? Il me dit, je ne sais pas, va à la bibliothèque d'Épernay, il y a une dame qui s'intéresse à tout ça. Et c'était la fille de Van Genève. Elle m'a dit, ah, c'est marrant, vous me faites penser à un petit jeune homme qui est venu voir mon père jadis. Et j'ai dit, qui était ce petit jeune homme? Claude Seignol. Donc, elle m'a fait une lettre comme pour Monsieur de Tréville. Le week-end d'après, j'allais voir Claude Seignol.
Tel d'Artagnan.
Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, par les faits, et ça a toujours continué par les faits. Désolé, c'est un peu long, mais...
Non, mais c'était très plaisant, là. On a encore un peu de temps, hein. C'était le début de la tableau.
Ah oui, d'accord.
Sarah, pour vous, qu'est-ce que ça représente, les faits, et comment vous les avez rencontrés?
Oh, je les ai rencontrés très tôt, parce que j'ai toujours lu les contes, les légendes, les histoires de fées, ça fait partie de ma culture. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur ce genre de choses, puisque j'ai fait un mémoire de maîtrise sur Morgane la fée et l'évolution de la légende arthurienne sur 10 siècles par rapport au statut, à l'évolution du statut social de la femme en Occident. Et donc j'ai vraiment travaillé sur la manière dont on considère la fée, dont on considère la femme de pouvoir, et comment on lui enlève petit à petit sa réalité pour la confiner à un autre monde parce que elle fait trop peur. Et puis j'ai eu envie d'écrire des fées. Mais j'ai eu envie d'écrire des fées de SF, des fées technologiques, des fées qui s'adaptent à notre monde, pour essayer d'en faire autre chose. Et pour survivre, mais aussi pour aider les hommes à survivre et à aller plus loin.
Nathalie, chez vous, que représentent les fées? Que font-elles? Où sont-elles dans vos écrits?
Alors déjà, dans ma vie, les fées, c'est ma famille. Mon autre famille. J'ai été élevée par une fée. Une vraie fée. C'était ma grand-mère préférée. Je me souviens, j'ai des livres qui ne marchent pas.
Ici, il marche.
Ici. Donc, j'ai été élevée par une fée, c'est ma grand-mère paternelle. Mes premières années, hein, je sais pas si avec elle. On vivait tous les mois d'été dans l'arrière-pays de Cagnes-sur-Mer.
Comme moi.
Voilà. Dans une maison qui était en fait une benne de camions que mon grand-père avait installée sur un terrain. On n'avait pas l'électricité, on n'avait pas le courant. Il y avait un robinet extérieur, on me touchait au tuyau d'arrosage dans une bassine. On avait un réchaud pour chauffer l'eau et puis tout était alimenté au gaz. J'ai des souvenirs magiques de cette période-là, j'étais très proche de la nature. Il y avait une ferme à côté, donc j'avais tous les lapins et les poules. Et puis ma grand-mère me racontait des tas d'histoires. Et je me rappelle d'un jour où je suis. Mes parents m'ont amené chez elle et j'étais encore toute petite. Et ce jour-là, j'ai vu ma grand-mère auréolée d'une lumière orangée. Et elle était comme sublimée. Et c'était vraiment l'image de la fée marraine qu'on peut voir dans les contes. Elle m'a toujours raconté une anecdote. Quand j'avais 2 ans, je parlais déjà. Une petite pipette quand j'étais petite. Et on rencontre une voisine à Cagnes-sur-Mer. Et la voisine. J'étais très très blonde, très mignonne, menue et tout. Et la voisine, oh la jolie petite fille, elle voulait me caresser les cheveux. Et du haut de mes 2 ans, avec ma petite voix qui ne savait pas prononcer les R, je lui ai dit « Ne touche pas, madame, tu vas m'enlever mon briment. » Briment, c'est un mot que j'ai inventé et qui est la poussière de fée. Et j'ai grandi en me percevant couverte de poussière de fée. Puis un jour, quand j'avais entre 3 et 4 ans, j'ai rencontré celui que j'appellerais l'homme sans visage, qui m'a brisée. Et à partir de là, si je n'ai pas été détruite, c'est parce qu'il y a toujours la présence des fées autour de moi. Cette présence que je ne voyais pas avec mes yeux, mais que je voyais avec mon cœur, et qui m'ont aidée à traverser ces moments difficiles. Après, quand j'ai lu les contes de fées, quand je commençais à savoir lire et tout, pour moi, c'était la vraie vie qu'on me racontait, c'était parfaitement normal. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour m'intégrer dans le monde réel, dans le monde des hommes. Mais je me sens toujours un peu étrangère dans le monde des hommes. J'ai parfois du mal à vous comprendre. Hein. Enfin, il y a peut-être des fées parmi vous, hein, je ne sais pas. Mais c'est vrai que...
Oui. Mais c'est vrai aussi que c'est une région, parce que j'ai grandi dans la même région, à Tourrette-sur-Loup. C'est une région avec ses vieilles forteresses et ses vieuses, ses vieilles pierres qui est remplie de ces souvenirs-là.
Quand on dit des gens qui sont fadas, qui sont un peu dérangés, mais fada c'est la fée, ça vient de fada, mais comment ça? Quand vous êtes fada, en fait, littéralement, ça veut dire que vous êtes possédé par les fées. Donc finalement, c'est pas fou, d'être fada.
Et fada, c'est aussi le destin. Fata Morgana, c'est le destin.
On retrouve ce mot
fada. La table alignée avec des fées, c'est compliqué. Hein.
On retrouve le mot fada dans la petite fadette que je ressens. La fadette, ça vient de fada.
Alors, voilà. Moi, ma question suivante, justement, après que vous ayez tous parlé de votre rapport avec les fées, c'est comment est-ce que vous... Alors, j'avais une première question, et Sarah en a déjà un petit peu parlé. La question suivante, Nathalie en a déjà un peu parlé. La question d'après, Pierre en a déjà un peu parlé, donc je ne vais pas m'en sortir. Sarah, moi, la question que je me suis posée en réfléchissant à cette table ronde, c'est des fées, encore des fées, toujours des fées. Est-ce que les fées, c'est les femmes, ou est-ce qu'on peut enfin parler des fées avec un Y et parler du peuple fée, qui est un peuple ou qui n'est pas un peuple que féminin, j'ai envie de vous entendre dire que, évidemment, dans notre culture occidentale, la fée est un peu l'équivalent de la femme, et donc elle est chargée de tous les malheurs du monde, et en tout cas de toutes les responsabilités.
Mais non, la fée n'est pas uniquement féminine. Et j'ai pris le parti dans Technophérie que le pluriel, les fées au pluriel, soient toujours féminines, mais il y a des garçons fées, comme il y a des filles fées. J'ai même des nains fées, des petits nains fées des eaux qui attirent les jeunes filles au fond des rivières. Et donc, il y a les deux, parce que bon... C'est aussi un peuple sexué, c'est un peuple hautement sexué, et dans toutes les légendes antiques, on voit des fées enlever des hommes et des femmes, et les enfermer, et les utiliser de toutes sortes de manières. Non, ce n'est pas uniquement un peuple féminin.
Chantal, vous
avez...
Oui, j'ai une autre vision. Quand j'ai demandé pour créer l'anthologie Dimension Fée, à un certain nombre d'auteurs de réfléchir aux faits et de m'écrire des nouvelles, d'écrire chacun de nouvelles, j'ai demandé notamment à la fille d'un écrivain qui m'a dit « Oui, mais moi je veux écrire sur mon père, et mon père pour moi, c'était l'équivalent d'une fée, c'est-à-dire un enchanteur. » Bon, très bien, envoyer le texte, bon. Et donc, pour quasiment clore l'anthologie, j'ai un texte de Sylvie Giollot sur son père, qu'elle considérait comme un enchanteur. Et elle nous raconte sa jeunesse où l'enchanteur du paraïs, puisque c'était la maison de Giollot, lui racontait les contes de fées, les faisait jouer aux fées, leur faisait faire des petits spectacles autour de Cendrillon, etc. Tu te souviens, on en avait parlé à Aix. Elle raconte que pour elle, enchanteur et fée, c'était la même chose. Alors, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais c'est pour répondre que c'est l'idée, voilà, l'élément est féminin ou masculin, et il y a des vrais fées qui sont des écrivains, peut-être pas tous, mais certains, voilà, certaines.
Est-ce qu'on ne confond pas fée et malfaisance? Est-ce qu'on ne confond pas justement dans cette volonté de
charger le féminin du négatif? Est-ce qu'on ne confond pas je pense parmi les clichés qui circulent sur les fées, et il y en a peut-être qui sont fondés sur la réalité, mais à cette question de l'enlèvement des enfants, à cette question du changement, est-ce qu'on ne charge pas la fée de malheurs qui finalement ne sont
pas... Ça dépend des traditions. Les fées de Disney, par exemple, ne sont absolument pas les fées modernisées. Elles se penchent uniquement sur les Verseaux et on oublie un certain nombre de fées maléfiques. Mais quand on voit ne serait-ce que les traductions britanniques ou germaniques, là, on a énormément. On a les deux. On a des fées très bénévolantes, mais on a aussi beaucoup de fées maléfiques. Mais pour moi, en fait, il y a et c'est un côté un peu rationnel de ma part, mais les fées, pour moi, c'est l'âge de bronze. Et les hommes, c'est l'âge de fer. Et c'est pour ça que les fées sont allergiques au fer. Et donc, c'est ce passage d'un monde à un autre, et d'un peuple plus ancien, qui a été chassé par un autre, et qui donc a eu des réactions de vengeance, a eu des réactions violentes envers ce peuple qui lui avait volé la terre, et qui l'a forcé à se réfugier sous la colline.
Comme ça, est-ce que c'est comme ça que vous voyez aussi dans vos nombreuses encyclopédies et contes sur les fées?
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce que tu racontes, c'est tout à fait vrai. J'aime bien l'image justement des fées de l'âge de bronze et l'homme de l'âge de fer. C'est vrai, moi j'ai un copain qui avait épousé une Irlandaise et elle racontait donc. Ça ne faisait pas longtemps encore que les petits garçons étaient habillés en fire parce que les fées enlevaient les petits garçons et pas les petites filles. Et pendant un bon temps, avant qu'ils deviennent des grands garçons, où là, ça ne les intéressait plus. Pour autre chose. Eh bien, le petit garçon était habillé en petite fille. Hein, c'est pas compte que c'était un petit garçon.
Et d'ailleurs, il y a même des. En Écosse, là, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait aux enfants des noms, des surnoms négatifs. Gros lait, petit cochon, les trucs comme ça, pour ne pas attirer les fées.
Et même dans le fameux bouquin de la comtesse de Ségur, la mère MacLeish a une terreur des fées. Effectivement, les fées, ça, elle n'osait pas prononcer le mot fée, de peur que, effectivement, lorsqu'on prononce leur nom, elles apparaissent. Et c'est pour ça que souvent, les fées, on leur donnait un surnom, on les flattait en les appelant les ravissantes, les jolies, les belles dames, pour éviter justement de. Oui, c'est ça, sans pardon.
Avec le nombre de fois où on a dit fée depuis le début, on devra en avoir un paquet qui apparaisse.
C'est peut-être toi qui ne les vois pas.
Ou je ne le dis pas. Nathalie, est-ce que pour vous, cette histoire du changelin, de l'enfant qui disparaît, c'est la responsabilité des fées, ou peut-être qu'elles rendent service à cet enfant et que nous, après, on pense que c'est un maléfice?
Je vais me citer d'abord, oui, avec un extrait d'un poème que j'ai écrit sur le sujet. Où est le bien, où est le mal? Pauvre question perdue d'avance, de l'être humain à l'être fait. C'est pas la même façon de penser, c'est pas la même morale, c'est pas les mêmes valeurs. Donc elles sont bénéfiques ou maléfiques, ça c'est uniquement dans notre perception, dans la perception des humains des faits. Elles se voient pas comme ça. Elles font ce qu'elles ont à faire. Et la fée, enfin en tout cas telle que je l'ai rencontrée, notamment dans les travaux de Claude Legouteux, c'est le génie du terroir quelque part. Elle est là pour protéger la nature. Et le fait de redouter la fée, qui peut être bénéfique ou maléfique pour l'être humain, tout comme l'est la nature, le fait donc d'en avoir peur, et ça incite à la respecter, et donc à respecter le morceau de nature dont elle est la gardienne, et donc à respecter la terre, à respecter l'environnement. À partir du moment où on cesse de craindre ou d'aimer les fées, on se retrouve avec des catastrophes écologiques comme on en connaît en ce moment.
Vous pensez qu'effectivement, comme dans tout traitement, chaque fois qu'un enfant dit qu'il ne le croit pas au fait, elles disparaissent.
Je ne crois pas ça. Je crois qu'elles sont toujours là, ou qu'elles sont maltraitées, comme la nature, comme la planète. Et c'est pour ça que j'ai écrit « On revenir au fait ». C'est si revenir à un respect de la fée en tant qu'incarnation d'un terroir, de la nature, etc. C'est le seul moyen, je pense, de se rappeler qu'il faut respecter la planète. Et, ben voilà, je pense qu'arrêter de croire au fait, c'est l'arrogance de l'être humain qui se croit tout puissant, veut tout contrôler et détruit. Tant qu'on croit au fait, on détruit.
Si je vous écoute bien, chacune, on pourrait penser que le seul qui est vraiment sciemment maléfique et sciemment du côté du mal, c'est l'être humain finalement.
Mais pour moi, complètement.
Je crois qu'on est tous d'accord.
Arrêtez d'être méchant.
Après, il est capable du meilleur comme du pire, il a son
ouais, mais là, je sens bien que lui. Arrêtez d'être méchant, vraiment.
En même temps, c'est toute la question de Technoferie, c'est ça aussi. C'est les fées qui reviennent vers les hommes pour leur dire maintenant vous arrêtez.
C'est ça.
Vous arrêtez de tout casser et il faut reconstruire quelque chose ensemble pour que la nature et la planète survivent.
J'ai reçu moi une très jolie nouvelle qui est dans cette anthologie de Pierre Bordage qui raconte une histoire de fées qui se baignent dans les stations d'épuration. Parce que c'est là que l'eau est la plus pure, elle vient d'être filtrée, etc. Et que toutes les rivières sont polluées. Donc, les faits modernes,
ça date. Moi, j'en ai une qui se nourrit de déchets radioactifs.
Une fée dévouée. Pierre, est-ce qu'on peut... Nathalie nous dit qu'elle vit avec et qu'elle les voit et qu'elles sont là. Est-ce que vous avez une autre façon de les approcher, une façon différente? Est-ce que vous avez besoin de plus de nature? Est-ce que là, vous aussi, le petit peuple est présent ou, tout le temps ou est-ce que ça demande un peu plus de concentration, de recherche, de pentagramme, qui sait?
Oui, j'ai tous mes rituels et je vis dans la nature néanmoins. Et là, c'est la même chose. Mais je vais dans les écoles quelquefois, et comme j'habite dans le Nord aussi, je vais dans les écoles où il y a beaucoup de petits arabes et des enfants qui ne connaissent pas les faits. On ne raconte plus l'histoire de faits, ce sont des gamins en difficulté, donc très proches justement de pouvoir comprendre les faits, ou tout au moins ces personnages, tout au moins il suffit de leur parler un peu et on comprend leur sensibilité et tout. Donc c'est des petits sauvages, mais c'est bien d'être un petit sauvage. Et bon, eux, évidemment, c'est des petits sauvages de l'asphalte, mais je leur raconte des histoires. Et comme il y a des petits arbres, je me dis, mais parce qu'ils parlent des faits. Ouais, tu nous parles des faits, mais je dis, vous avez Aïcha Kamdicha. Ah oui, tu connais Aïcha Kamdicha? Ah oui, je connais qu'Aïcha Kamdicha, et si tu la prononces son nom trois fois, elle apparaît. Et là, ça c'est extraordinaire, c'est qu'ils vivent complètement dans des quartiers vraiment archi-moches. Et lorsque je leur dis, mais votre Aïcha Kamdicha, qu'est-ce qu'elle fait? Et elle ressemble complètement à notre banshee. C'est vraiment notre banshee, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas la banshee ni rien, mais lorsqu'ils décrivent cette... Alors, la banshee apparaît la nuit, dans des endroits déserts, des landes désertes, elle s'approche des maisons, elle pousse un cri, ou elle pleure, elle vient annoncer un malheur, quelque chose d'un désastre, et souvent elle vient d'un endroit, c'est d'un blanc, c'est l'ancienne déesse de l'eau aussi, de la brume, elle sort de l'onde, enfin il y a toujours l'eau, cette dame blanche aussi, on va la trouver sur les bords de route en train de faire du stop, là justement où il y a. Et quelquefois même elle tire ou elle pousse son tournant en Bretagne la caricole en coup, c'est-à-dire le véhicule de la mort. Et là, je leur dis à quoi elle ressemble à Aïcha Kamdicha, elle me dit ben, elle hante le parking d'Auchan. Donc,
à défaut de la nationale.
Voilà, on peut plus, c'est désert à minuit là, le parking d'Auchan. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse des cris. Elle pousse des cris. Et je dis, mais elle est belle ou elle est laide? Mais elle est laide, je sais pourquoi. Parce qu'elle sort de la citerne et l'eau est polluée. C'est incroyable. Et je dis, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle pousse un caddie. On retrouve le véhicule.
Donc, un c'est petit véhicule, que... comme dit Serge Dassault.
Voilà. C'est quand même étonnant que cette fée est toujours là. Le monde change, mais cette fée est toujours là. Alors moi, évidemment, je vais pas aller chercher mes fées dans tout ça. C'est pour écrire sur les fées. Bon, moi, évidemment, je n'utilise pas de machine à écrire, ni d'ordinateur, ni rien. J'ai besoin de mon rituel avec les fées, du crayon, de la plume, d'écouter de la musique, de m'entourer oui, je crois que là, j'ai besoin, moi, effectivement, d'un rituel pour
parler des fées, pour les dessiner.
Oui, toujours, mais je leur laisse aussi, ça, c'est une manière, lorsque je bois, il y a toujours une petite goutte pour les fées, dans mon jardin, enfin, il y a des endroits pour les fées, mais c'est vrai aussi, bon, le Bram Stoker l'a dit, là, lorsqu'il lui franchit le pont, les fantômes partent à sa rencontre, et il suffit effectivement de franchir ce miroir, d'avoir cette pensée magique, dont parle Bachelard, qui n'était pas un elficologue, mais qui devait l'être quelque part, quoi. Bachelard, alors, tu parlais des sources, là, les sources claires. Il y a tout un texte sur les rêveries de l'eau. Il parle effectivement des fées qui punissent un homme qui a pollué en puissant dans la rivière. Et à cause de ça, il va devenir impuissant. Les fées vont le punir. Et c'est pour ça que le second degré aussi est quelquefois mauvais dans ce genre de choses, c'est que là, elles étaient capables de ça. Et on parle de Bachelard, disant que cette parole des fées, cette malédiction qu'elle leur envoie, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui?
On a même découvert que dans le Pacifique, à Hawaï et dans ces endroits comme ça, il y a une fée bleue qui est en fait exactement comme la Banshee et comme Aisha Kandisha, qui a exactement le même rôle, mais pour les surfeurs, pour les hommes de la mer.
On peut peut-être commencer à penser que c'est peut-être notre Banshee qui est leur Aisha et leur... voilà. On peut peut-être se décentrer.
Tout à fait.
Moi, je voulais vous dire, parce que Pierre vient de parler des ponts, à Paris, il vient de se passer un truc assez rigolo, étrange. Il y a un pont qui, depuis très longtemps, était un pont magnifique, qui est le pont des Arts, à travers lequel on pouvait s'asseoir au milieu du pont et regarder la Seine par les rambardes. Et depuis quelques années, ce pont a subi l'assaut
des cadenas
de façon assez agressive. Et tout d'un coup, la vue était devenue impossible. Il y a peu, la mairie de Paris a enfin pris les mesures pour enlever ces cadenas. Et je vous assure que se réasseoir sur ce pont et revoir la Seine, qui pourtant n'est pas un fleuve très pur et très transparent, c'est un moment magique où on se dit que les fées ont peut-être agi.
On n'a pas besoin de cadenas. On peut faire un feu, un vœu en jetant une pièce, en jetant un objet qui nous est précieux dans l'eau. On n'a pas besoin d'enfermer quelque chose.
Est-ce que pour vous, les fées sont, on parlait du destin au début, sont ou l'instrument du destin ou elles sont son instigateur? Est-ce que c'est elles qui provoquent le destin ou est-ce que c'est le destin qui les fait agir pour aller dans un sens ou dans un autre?
Je crois qu'il y a les deux. Il y a des fées du destin, il y a des fées qui dont on parle, les fées marraines, les fées qui viennent offrir des dons aux enfants, etc. Comme il y a des fées qui vont influer un destin dans une rencontre.
Et que dit-on des fées sur les... On en a parlé aussi un petit peu. Que dit-on des fées sur les berceaux? Alors, est-ce qu'elles sont, en dehors de celles qui éventuellement enlèvent les enfants, est-ce qu'elles sont comme celles de Disney bénéfique. Alors je sais, Nathalie, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais est-ce qu'elles ont, elles sont, alors plutôt que, quelles sont leurs intentions, si c'est ni bien ni mal, entre celles, les trois qui viennent venir à la Belle au Bois dormant et celles qui...
Elles viennent parce qu'elles sont sollicitées. Elles sont sollicitées par le roi, la reine, enfin d'autres personnages, mais par les parents de l'enfant à qui, effectivement, quand on a un bébé, voilà, on voudrait le meilleur pour lui, pour elle si c'est une petite fille. Voilà, c'est l'idée d'invoquer la magie pour protéger l'enfant, qu'il ait une belle destinée, qu'il ait un beau parcours, qu'il soit jamais malade, etc., etc. Je pense que tous les parents souhaitent cela. Et donc, l'invocation de la fée ou des fées est une façon de se protéger de cet inconnu que va être le destin de l'enfant.
Et je suis d'accord avec Nathalie sur l'absence de bien et de mal. Et d'ailleurs, les vœux et les dons que vont offrir les fées sont souvent à double tranchant.
C'est très précis pour son assouffler, car elles adorent jouer sur l'ambiguïté que nous laissons dans nos vœux. Je voudrais juste rappeler qu'avant même les fées de nos contes et de notre petite mythologie, il y avait la grande mythologie, et que la déesse Déméter a eu ce rôle de fée marraine sur un enfant. Et en fait, il y a même des légendes dans l'Antiquité, enfin des mythes, dans lesquels, lorsque le roi, enfin le personnage puissant, demande au dieu, toutefois directement, de faire en sorte que son enfant ne connaisse jamais le malheur, ben, la réponse c'est faire mourir l'enfant. Parce que dans la vie, forcément, il y aura une part de souffrance, c'est ce qui est formateur.
Ce que vous venez de dire me fait penser à la filiation entre Déméter, les fées, et même la religion chrétienne, puisque quand on entend chez les chrétiens dire ce que vous venez de dire sur l'attention au double tranchant, quand on dit aux chrétiens fais attention à ce que tu demandes à Dieu parce qu'il pourrait t'exaucer, c'est exactement la filiation de l'effet.
Ça a existé au pluriel en fait avant.
et alors est-ce que du coup vous pensez que les fées se sont penchées sur vos persos? Est-ce que vous vous sentez Nathalie nous en a parlé, mais est-ce que vous vous sentez protégée, détenteur de dons qui vous auraient été donnés très tôt? Est-ce que vous vous sentez un peu en tant que créateur d'univers, en tant que créateur de livres et utilisateur des mots, est-ce que vous vous sentez un peu vous-même investi d'une certaine magie des fées?
Je dirais que si elles m'ont fait un cadeau, c'est celui de l'empathie, et le double tranchant est énorme, parce que autant il permet de très belles choses, autant il est terriblement douloureux.
Oui, moi j'avais eu comme don, je mets beaucoup de guillemets, la précocité, et c'est aussi à double tranchant, c'est-à-dire que ça suscite la jalousie, ça suscite plein de réflexions, de réactions négatives, et c'est assez dur à porter quand on est enfant, il faut pouvoir, grâce au livre, on peut s'en sortir et essayer de surmonter cela, mais c'est quelquefois très difficile d'être une sorte de mouton noir dans sa famille, par exemple. Ça, je l'ai vécu et je pense que je ne suis pas la seule.
Oui, bon, je disais, je dois tout au fait, donc je dois tout au fait, et en même temps, bon, la liberté coûte très cher. Ce don des faits, ce cadeau des faits, bon, maintenant, vous êtes là et les faits sont revenus quelque part. Les faits sont... on entend à nouveau la voix des faits, la musique des faits, tous ces festivals d'aujourd'hui montrent qu'il y a une réponse, il y a un engouement pour les faits. Les faits sont revenus quelque part, et elles reviennent d'ailleurs régulièrement d'époque difficile en époque difficile, les faits réapparaissent. Mais il y a quelque temps, quand j'étais petit, que j'étais jeune, hein, moi je ne suis pas tout jeune, hein, donc c'était pas bien du tout, quoi, d'être un enfant rêveur, ça me mettait complètement, mais je ne savais pas, en plus c'était terrible. J'allais à l'école, j'étais le dernier, je ne le savais pas. Mes maîtresses m'aimaient bien quand même. mais j'étais un mauvais élève, mais ça se passait bien. J'appelais Pierrot Lunaire, etc. Et l'une, un jour, m'avait fait un joli compliment pour moi. Tu me fais penser à la petite lanterne rouge qui est au bout du train. Alors j'étais vraiment le dernier. Et quand j'étais rentré chez moi, j'avais dit à mes parents, ah, la maîtresse a dit que j'étais la petite lumière rouge au bout du train. Qu'est-ce que c'est? Et ouais, et c'est vrai, j'ai toujours été inadapté, mais c'est un choix aussi. J'ai pas de portable, j'ai rien, j'ai pas de ceci. C'est le prix à payer. Mais évidemment, pour les autres, c'est difficile aussi. Avoir des enfants, les enfants qu'on a, il y a des deuils, il y a énormément de deuils. J'ai connu beaucoup, beaucoup de deuils. Et, évidemment, certainement par ma faute, quelque part, parce que il est plus facile d'élever peut-être des enfants en les emmenant au foot ou je sais pas quoi que les emmener très jeunes dans la nature et leur montrer des faits et commencer à les voir. Et c'est bien, mais ça fait des enfants. ça fait
dans
des
le même
enfants.
Monde que vous.
Voilà, ouais, c'est ça.
Tout aussi adapté que nous tous.
Ma fille aînée, quand elle était toute petite, la première fois qu'elle a vu un lézard dans le jardin de mes parents, elle a dit « Oh maman, regarde un bébé dragon !» Donc j'étais très fière, puisque c'est la fille. Et maintenant, elle fait des études d'art, hein, pour être illustratrice. Et elle dessine essentiellement des fées, des sirènes.
Des bébés dragons.
Pas encore, non. Elle ne dessine pas, mais voilà, elle est partie là-dedans.
Est-ce qu'il y a chez d'autres auteurs d'autres faits que vous traiteriez pas de la même façon, qui vous ont fasciné, plus, je pense, moi personnellement, les petites fées de New York m'ont fait mourir de rire, mais c'est pas forcément les fées telles qu'on les imagine. Celles-là boivent, jouent du punk et du punk rock et voilà, c'est une particulière, il faut bien dire. Les tartons ancestraux.
Il y a l'effet de Karim Berouka dans Féouïde et Guillotine, qui ont besoin de fumer de la ganja pour pouvoir supporter le monde des hommes. Il y a... Voilà. Il y a la merveilleuse fée étoile filante de Neil Gaiman dans Stardust. Il y en a énormément. Il y en a des très très belles. Il y a des fées, et Neil Gaiman en a créé un certain nombre.
Il y a même des fées des Restos du Cœur chez Christiane Baroche qui amène des sacs tout moches, remplis de victuailles, qui les distribuent aux gens en disant j'en ai trop. Sauf que le sac est comme une corne d'abondance, ça ne se tarit jamais. Alors, c'est des vieilles patates, c'est des légumes un peu fanés, etc. Mais elles nourrissent tout le monde.
Ça me fait penser au dernier magicien de Megan Lingham, qui est aussi une forme de fée perdue. Un vétéran du Vietnam qui est une fée perdue dans la ville.
Donc il y a des fées dans le monde moderne qui sont reprises ou créées par des écrivains actuels et qui sont pas tout à fait comme la fée Carabosse ou la fée Morgane ou les fées classiques qu'on peut connaître. Et ça, c'est intéressant de voir comment certains les voient. Il y a aussi Joël Schmitt qui, lui, a croisé une fois à 15 ans dans le parc du Luxembourg une très belle femme habillée tout en bleu, avec des beaux yeux bleus, etc. Et pour lui, c'était la fée bleue. Et après, il courait après pendant des années pour la rechercher, etc. Donc, je pense que ça vient aussi de l'imagination de chacun et de ce que chacun veut voir dans l'autre, que ce soit un autre femelle ou mâle.
Il y a aussi le magnifique jeu de rôle de White Wolf, Changing the Dreaming, donc change l'un le rêve. Il y a une autre version. C'est un jeu dans lequel on joue dans le monde moderne
Et les changelins sont en fait des fées qui se sont incarnées dans des apparences mortelles. Donc peut-être que certains d'entre nous sont des changelins en réalité. Et un jour, ils pètent leur chrysalide, là, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'ils ont une double vision. Quand ils vont regarder un bâtiment, ils vont voir le bâtiment comme nous on va le voir, et ils vont avoir cette acuité féerique qui va leur permettre de voir l'autre réalité. Peut-être qu'à l'endroit de ce bâtiment, il y a un magnifique palais, ou il y a un bar réservé aux changelins, ou l'entrée d'une forêt enchantée, et les deux réalités coexistent. Et
un peu comme Diagone Alley chez De Caroli.
Je sais pas, j'ai pas vu. Je suis désolée. Mais c'est un jeu auquel j'ai énormément joué, pour lequel je suis maintenant maître. Et c'est devenu mon jeu de rôle préféré. Et des univers dans lesquels j'adore plonger mes joueurs également.
Ma fée, enfin, le littéraire que j'ai toujours préféré, c'est d'ailleurs pas vraiment une sorte de fée sorcière. C'est de Sylvia Towson-Warner, ça s'appelle Lonely Willows. Et c'est un petit peu la fin de l'époque victorienne. Et c'est une fille, pas très jolie, qui vit avec sa mère meurt. Elle va vivre avec son frère, la femme de son frère. Elle est complètement inadaptée. Et elle se sent pas du tout de ce monde. Elle va glisser tout doucement vers la campagne. Un jour, elle va faire des courses et au lieu d'acheter, elle a oublié ce qu'elle doit acheter. Par contre, elle respire un bouquet de feuilles simplement de noisetier. Et elle achète le bouquet de feuilles de noisetier. Elle ramène ça à la maison, elle est toute heureuse. Elle renifle. Elle se sent. Et c'est la fin du bouquin, si on ne sait pas d'ailleurs si elle est devenue folle ou si elle est devenue fée ou sorcière, tout va devenir comme une évidence qu'elle est une fée. Ben c'est sans effets spéciaux, rien du tout. Voilà, c'est vraiment...
L'effet sans effet.
Voilà, ça se fait tout à fait naturellement. Et je trouve ça, c'est un bouquin coup, je vous le recommande, c'est magnifique.
Vous êtes le deuxième auteur à en parler sur le
Et sinon, il y a un autre roman qui n'a pas été traduit, War for the Oaks de Emma Bull, qui est absolument magnifique et qui reprend à la fois les fées musiciennes qui sont capables d'épuiser les humains de leur musique et l'idée selon laquelle il faut emmener un mortel sous la colline pour pouvoir verser le sang féerique.
Ça me permet de rebondir et des joueurs de rock qui assurent dans War for the Oaks.
Ah, ça.
Il y a eu un roman qui m'a énormément marqué sur le monde féerique, Faerie, la colline magique de Faerie.
Ah, oui, aussi. Qui est une Faerie très très sombre et c'est traduit contrairement à ouais. La boule. Ouais. Si vous avez envie d'avoir accès à une Faerie un petit peu moins rose bonbon que celle de Disney, c'est
une Faerie plus proche de la vraie famille.
Oui, alors justement, ça me permet de. On a beaucoup parlé de l'opposition entre les fées et les humains, ou en tout cas de leur potentiel antagonisme. Mais moi, j'aimerais que vous me parliez aussi de ce qui se passe dans le monde des fées, et qui est souvent dans la violence et dans l'opposition entre deux clans, dans l'opposition entre deux visions au sein même des fées, de la magie et du pouvoir. Enfin, on en parle dans La guerre des fleurs de Tad Williams, oui. On en parle dans War for the Oaks, on en parle dans, je pense à un roman de plutôt bit-lit urban fantasy où l'héroïne, je vais avoir oublié le nom complètement, mais c'est pas grave, où l'héroïne est l'héritière potentielle du royaume des fées, où elle est l'enjeu d'une guerre entre les espèces de gnomes et les fées un petit peu censé être supérieur. Voilà, le monde des fées, c'est pas non plus la parfaite entente et l'harmonie.
Moi, j'ai triché en faisant une espèce de guerre entre le traditionnalisme quasi fasciste et une féerie plus douce. C'est-à-dire que une grosse partie de mes fées ont fait leur révolution et se sont dit on est en train de crever. Il y a de moins en moins de fées parfaites. On doit de plus en plus aller faire des échanges, parce qu'à force de se reproduire entre nous, nous sommes en train de disparaître. Et donc, il faut changer. Et on a une espèce de société anarchiste féerique qui en découle. Mais il reste toujours des poches de fées traditionnalistes qui, elles, résistent à l'envahisseur, haïssent toujours aussi profondément les hommes, etc. Et sont devenus de véritables éco-terroristes qui interviennent aussi bien sous la colline que dessus pour essayer d'empêcher et la modernisation et surtout la rencontre et la coopération entre les fées et les hommes.
Moi, j'ai imaginé dans un des livres qui est là des fées autour d'une fontaine comme ça, qui se réunissent et qui sont inquiètes parce que l'une d'entre elles a disparu. Et celle qui a disparu, c'est la plus jeune, et c'en est une qui ne veut plus être fée, qui refuse ce don dont les autres ne sont pas du tout d'accord. Donc il y a Mary Poppins, il y a Morgane, il y a Mélusine, il y a la fée Lélina, il y a la fée Clochette, etc., qui sont là en train de dire non, il faut qu'elle, voilà, qu'elle rentre dans le rang. Et donc elle lui envoie un détective privé, un personnage que j'ai repris à Paul Fournel, qui s'appelle Pape de Croix. Voilà, toute allusion
à une boisson ayant existé.
Voilà, ce ne serait pas valable. Et donc, elles envoient ce détective la chercher. Et en même temps, la Carabosse, qui est une fée, hein, je vous rappelle que la Carabosse n'est pas une sorcière, mais une fée plutôt mauvaise, part elle aussi à la recherche de la fée qui a disparu et qui, elle, est devenue sirène. Bon, je ne vous raconte pas la fin, mais voilà. C'est l'idée quand même, effectivement, qu'il y a des, sinon des combats, en tout cas, ou des rivalités, en tout cas, il peut y avoir une envie de garder vers soi quelqu'un qui aurait tendance à voler sa liberté, on peut dire.
C'est pas complètement la démocratie, quoi, au premier effet.
Je pense pas que ce soit complètement la démocratie.
Pierre, vous qui les connaissez sous plein d'angles différents, quelles sont les oppositions, quels sont les clans
Je vais revenir encore à Sylvia Theosson-Warner qui a écrit un bouquin superbe chez L'Hôpital, qui justement parle des problèmes entre les fées et certaines races de fées. Mais moi, je n'ai pas écrit j'ai pas écrit de fantaisie. J'arrive pas à écrire de fantaisie. C'est curieux, mais je reste à la lisière. Je rentre pas, je vais pas chez elle, je veux pas les embêter, je sais pas. Je n'écris pas sous elle. Alors, je m'amuse avec les contes de fées, à détourner les contes de fées et à m'amuser avec elle. Je joue avec elle, je joue avec moi, ça se passe bien. Mais par contre, par exemple, je n'aime pas du tout Tolkien. Pas du tout Tolkien. J'aime bien la fille du roi des elfes de Don Sani. Mais très peu de. Je lis très peu de fantasy parce que justement, je suis qu'un humain et je.
Alors vous les décrivez, les cataloguez, vous en faites des dictionnaires,
mais je
ne racontez pas d'histoire qui les mettent en scène.
Voilà, elles font ce qu'elles veulent, je leur laisse leur mystère.
C'est peut-être le coup d'eau.
Oui, je pense. Oui. Et on peut rencontrer des fées aussi. Hein. On espère toujours rencontrer des fées et donc ce contact. Mais c'est-à-dire que le roman de fantasy. Disons que les plus beaux étaient écrits au Moyen-Âge, pratiquement, dans les contes populaires, dans les légendes, et tous les autres, c'est formidable. J'adore Pével, j'aime beaucoup les plein d'auteurs, ce qu'on a écrit, mais j'ai beaucoup mal. Ou alors dans des nouvelles comme les tiennes, comme là il y a ce jeu de miroir, d'approche féerique, mais. Des histoires de chevaliers qui combattent pour le bien, pour le mal, ça, j'aime autant lire Dumas à ce moment-là, parce que ça visait à faire
plaisir.
Non, mais pour moi, tu sais, je donne mon avis, oui, quoi, je n'arrive pas.
Mais vous êtes plus pour une approche, peut-être, puisque je vois Cristal qui est là, peut-être pour une approche plus sur l'illustration et sur l'imaginaire que produit les
jeux,
plus que sur le. Qui leur arrive potentiellement réellement.
Voilà, je suis plus attiré par Yeats, par Bachelard, par des rêveurs de rêves, des rêveurs de fées,
Mais pas pour raconter leurs histoires.
Non, voilà.
Alors Nathalie, vous, vous racontez leurs histoires.
Ah oui. Mais je voudrais dire, juste, je peux faire deux remarques.
Bien sûr.
La première, c'est pour rebondir sur Carabosse. En faisant des recherches sur le personnage de la déesse Kéridouen, je me suis rendu compte que dans les versions chrétiennes, donc dans lesquelles elle est diabolisée, on donne comme traduction à son nom sorcière bossue. Et elle a un chaudron. Et elle est bossue parce qu'elle touille son chaudron. Alors qu'en réalité, Kéridouen, ça veut dire la blanche inspiration. Son chaudron, c'est celui de l'inspiration dans lequel vont puiser les bardes. Elle est l'équivalent des muses de la mythologie grecque. Et en fait, la sorcière bossue, Kéridouen, Kéri bossue, Kéri boss, Carabosse. Carabosse, c'est juste une diabolisation de Kéridouen, qui s'est en plus affadie dans parce que le conte souvent succède au mythe. Il y a même la légende parfois entre les deux. Mais... l'autre chose, c'est que au quotidien, on peut tous être une fée. Ça m'est arrivé.
Bonne nouvelle.
Ouais. Alors, il y a
repartez chez vous.
Il y a quelque chose qui peut être lié à la perception d'autrui. Par exemple, j'avais entre 25 et 30 ans. À l'époque, j'habitais à la Butte aux Cailles, à Paris, dans le 13e, et je travaillais pas très loin, place d'Italie. Et un jour, il s'est mis à neiger, et j'adore la neige. La neige, c'est magique pour moi. Donc, je sortais de mon travail. Bon, j'étais plus jeune, j'étais...
Libérée, dégagée.
Mieux roulée. Voilà. Non, non.
On n'en doute pas.
Non, non. Et je marchais, et j'étais là, avec cette expression émerveillée devant les flocons. Et un inconnu s'approche de moi. Il me dit, écoutez, il faut que je vous le dise, quand je vous ai vu approcher au milieu des fleurons, j'ai eu l'impression de voir une fée. Et il est reparti après m'avoir dit ça. Il n'a pas cherché à me draguer ni rien. C'est juste comme ça, gratuit. Par l'expression que j'avais, ce qui rayonnait de moi à ce moment-là, ça lui a donné le sentiment de voir une fée. Ensuite, dans mon activité d'auteur et dans mon activité d'être humain, ça m'est arrivé d'être bienveillante envers les gens. J'essaye, en tout cas. Je préfère être bienveillante que malveillante. Et bon, souvent, des gens me remercient en me disant que j'ai été une fée pour eux. Et moi-même, en tant qu'auteur, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont été des fées pour moi. Donc je pense que, en fait, les fées sont vachement plus présentes dans le monde que...
Soyez toute la fée.
J'ai ce qu'on pourrait appeler une filleule, mais chez nous, c'est mon lutin et je suis sa fée.
Et ben voilà, c'est, je crois, une très belle conclusion. Soyez soit des lutins, soit des fées, alternativement l'un ou l'autre, mais ne vous privez pas de cet univers que nous avons décrit avec beaucoup de passion et de patience, comme nos quatre invités. Merci à vous, au revoir.